C'est par où le bonheur ? C'est par l'USEC. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux, c'est le cas de le dire, d'être ici avec vous. Alors je voudrais tout de suite dire les choses clairement. Je suis là pour remplacer au pied levé un frère qui était bien plus habilité que moi pour parler du sujet que nous allons traiter ce soir, qui est le bonheur dans la Bible. Au départ, c'est ça. Je souhaitais le changer un petit peu, en cheminer vers le bonheur, mais le sujet, c'est le bonheur dans la Bible. Donc, je ne suis pas bibliste. Je suis plutôt de formation, c'est plutôt la théologie, l'ecclésiologie en particulier. Mais enfin, la Bible étant l'âme de la théologie, j'ai quand même lu la Bible, je l'ai même étudiée, et je continue à la prier et à l'étudier. Donc j'en sais un petit bout comme vous, et on va essayer d'en sortir quelque chose. Mais je fais déjà aveu de mon incompétence sur ce que je vais dire. Je suis assez rassuré quand je dis ça, parce que devant la parole de Dieu, nous sommes tous des gens profondément incompétents, puisqu'elle nous dépasse tellement, et pourtant elle nous fait vivre. Je vais développer cet exposé en 6 points. Je ne sais pas si vont les marquer. C'est tout ce que je leur ai laissé, d'ailleurs. Vous ne l'avez pas pris, ça. Alors, 6 points. Caractéristiques générales du bonheur dans la Bible. Le Dieu qui intervient, louange et supplication, la voix, le désir, la vision de Dieu. Donc je vais essayer de suivre ces points. J'ai 1 heure, j'ai 6 points, ça fait combien de temps par point? 10 minutes. J'ai 8h15 à ma montre, donc voilà, j'avance un petit peu. Quelques caractéristiques générales du bonheur dans la Bible. Je crois que la première chose qu'il faut dire, parce que c'est un mot qui est très difficile à cerner, comme ça a été présenté d'ailleurs cet après-midi à la conférence, très difficile à situer la question du bonheur. La première chose qu'on peut dire, c'est que la Bible ne parle pas du bonheur sans prendre en compte la dimension dramatique de la condition humaine. Il n'y a pas du bonheur dans ce monde. Il n'y a pas que du bonheur dans ce monde. On voit surtout du malheur. Grâce à Dieu, on voit aussi du bonheur. Mais pas que dans la Bible, si la Bible est l'expression de la condition humaine pour une grande part, on peut bien dire qu'il n'y a pas que du bonheur. De surcroît, le bonheur est associé dans la Bible et en particulier dans le Nouveau Testament à l'évangile des béatitudes, à la mort et à la résurrection du Christ. Pour autant, la pensée chrétienne et biblique pose un regard bienveillant, plus que bienveillant, un regard d'empathie sur tous les bonheurs de ce monde dès lors qu'ils répondent à 2 conditions. Qu'ils soient éthiquement bons et qu'ils n'enferment pas l'homme dans son égoïsme, dans sa suffisance. Vous voyez toute la question, par exemple, du plaisir par rapport au bonheur. Pas de vrai bonheur dans l'Écriture sans désir du bien, ni sans ouverture à l'autre. Je me limite à la Bible, hein. Je ne parle pas des approches philosophiques, même si indirectement je pourrais y faire allusion. Je ne parle pas de ça. La Bible, par ailleurs, quand elle parle du bonheur, elle parle d'un bonheur durable. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque précisément, il y a du malheur dans la vie qui traverse notre aspiration au bonheur et qui la bloque, la détruit, l'empêche de se réaliser ce bonheur. Précisément, la Bible nous montre que le bonheur auquel elle nous invite peut traverser le malheur, mort incluse. Alors pas tout de suite, ça, c'est tout un cheminement, je vais y revenir. Et donc il y a une perception d'éternité dans la vision du bonheur dans la Bible. Je dis tout de suite que le bonheur dans la Bible n'est pas vécu, parce que ce n'est pas du tout sa problématique, comme une compensation des frustrations terrestres. Ça, c'est une problématique moderne, contemporaine. C'est le contraire. Les bonheurs terrestres sont des signes provisoires, toujours provisoires, d'un vrai bonheur qui toujours nous manque et qui est devant nous. Donc il y a une vision en avant. Le bonheur que nous vivons ici-bas, aussi vrai soit-il, nous renvoie à quelque chose qui est qui fait signe, qui est devant nous, qui n'est pas réalisé, qui nous manque. Paradoxalement, le bonheur renvoie à un manque. Pas simplement le malheur, mais même le bonheur, quand on le vit, dans l'Écriture, quand on vit le bonheur, il nous fait signe vers quelque chose d'autre que lui, ou de plus grand que lui. Le bonheur dans l'Écriture est communautaire, il n'est jamais personnel. Heureux le peuple, où il en est ainsi, vous trouvez ça dans les psaumes, dans d'autres endroits de l'Écriture, dont le Seigneur est le Dieu. Ce n'est pas un bonheur individuel, ou pas essentiellement. Dans un premier temps, l'Écriture voit le bonheur comme la vie réussie, la vie prospère, avec une descendance, donc une vie bien de chez nous, si je puis dire, quelque chose qui nous ressemble, on aime bien réussir sa vie, c'est tout à fait louable et normal. Mais voilà, il y a un problème, c'est que ce bonheur, qui est le bonheur de l'homme qui suit les voies du Seigneur, voilà, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ne s'arrête dans la voie des égarés, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Voilà, l'homme heureux, c'est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. L'homme qui suit la loi du Seigneur, c'est le début du psaume 1, qui murmure sa loi jour et nuit. Il y a une permanence, une durée, un approfondissement. Celui qui est dans les voies de Dieu, il n'y a que deux voies, la vie, la mort, le bonheur, le malheur, choisit le bonheur, choisit la vie. Donc, est heureux celui qui choisit cette vie. Et sa vie sera réussie. Mais voilà, il y a aussi le contraire, car l'expérience montre que il est des justes malheureux et des impies qui sont heureux. Il est des gens bons qui sont malheureux. Il est des gens mauvais qui sont heureux. Enfin, à perception, comme ça, de l'extérieur. C'est toute la question qui hante la Bible de ce qu'on appelle la rétribution. Comment ? Alors on dit que Dieu donne du bonheur, mais au final, on voit que les impies sont heureux et que les justes sont malheureux. C'est toute la question de Job, fondamentale. Pas que de Job, mais essentiellement concentrée. La grande question biblique, une des grandes questions bibliques est celle-ci. C'est à partir de ce questionnement qui va tarauder les auteurs bibliques que va se dégager l'idée de ce qu'on appelle les pauvres du Seigneur. Les pauvres du Seigneur, les Anaouim, vous avez dû entendre parler de ça, ce sont d'abord ceux qui sont victimes de l'injustice des autres. Ce sont les opprimés, ceux qui souffrent de cette injustice, parce qu'ils sont plus petits, ils n'ont pas les moyens de se défendre comme les autres. Et cette réflexion de ces petits va conduire à cette idée que le vrai bonheur, finalement, il n'est pas dans la prospérité, dans la vie réussie, dans l'acquisition des choses, mais dans la proximité de Dieu, dans la présence de Dieu. Pas de plus grand bonheur que d'être avec Dieu. Donc vous voyez le lien entre une expérience de pauvreté et cette idée que Dieu est le bien, le véritable bonheur de celui qui se fie en lui. La communion avec Dieu est inaltérable, elle ne peut pas finir. Donc la rétribution, si je puis dire, que l'homme attend de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors ça ne se fait pas comme ça, c'est tout un cheminement. Il y a en creux une affirmation d'éternité, parce que c'est du lien, c'est de l'amour, ça ne peut pas connaître de fin. Et du coup, on n'est plus dans un régime de rétribution, on est dans la gratuité de l'amour, s'il en est ainsi. Et le bonheur, c'est finalement l'alliance éternel avec Dieu. Ceci se forge au creuset de l'épreuve, de l'expérience traversée par l'épreuve. Très rapidement, dans l'Écriture, s'accomplit cette perspective. Le bonheur pour le chrétien, c'est l'union au Christ. C'est tout simplement notre union au Christ en son mystère de salut, en son mystère sauveur qui nous fait passer de la mort à la vie. De l'épreuve à la joie, c'est la joie pascale. Et la joie pascale suppose une Pâque de la joie, c'est-à-dire une transposition de notre conception du bonheur. Tenez pour une joie parfaite, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Il faut vraiment être chrétien pour oser dire ça. Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'esprit de gloire repose sur vous. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, etc. Donc, paradoxe chrétien par excellence est celui-là. Il s'agit finalement d'être uni au Christ, de demeurer en lui, demeurer en mon amour pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, dit Saint Jean. Demeurez en moi. Donc on n'est pas dans des considérations hédonistes, on n'est pas dans des considérations théoriques. Ici, c'est le lien à la personne du Christ. C'est le Christ mort et ressuscité auquel nous sommes unis, qui est notre bonheur. C'est lui notre bonheur. Alors, je vous rassure, après cet accomplissement qui est indépassable, on y reviendra un petit peu plus loin, mais je suis dans les présentations. Le bonheur chrétien ne s'oppose pas du tout au bonheur humain, ni au plaisir de ce monde. Le rapport entre plaisir et bonheur en christianisme est un peu du même ordre que le rapport entre Eros et Agapé, puisque finalement le vrai bonheur, si c'est l'union au Christ, c'est de l'amour, c'est le bonheur d'aimer et d'être aimé. Je vous donne une bonne nouvelle, chacun de nous ici présents est infiniment aimé d'une manière unique et exclusive, pas excluante, par le Seigneur. Je ne saurais vous donner d'autres meilleures annonces de bonheur que celle-ci. Chacun de vous, personnellement, est infiniment aimé d'une manière unique et exclusive, inconditionnelle par le Seigneur. C'est là la source du bonheur. Alors je parlais du lien entre Eros et Agapé. Je voudrais juste vous citer ce passage de la fameuse encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, où il a une analyse sur Eros et Agapé. Voici ce qu'il dit. Agapé, peut-être pour certains qui ne voient pas trop ce que c'est l'amour même de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est ce qu'on appelle la charité, ça a été traduit par caritas. Hein? C'est l'amour même de Dieu répandu dans nos cœurs. Eros, c'est la puissance d'aimer qui dans son premier jaillissement, vient de nous, qui se manifeste comme un manque. Eros et Agapé, je cite Benoît XVI, amour ascendant et descendant, ne se laissent jamais séparer complètement l'un de l'autre. Plus ces deux formes d'amour, même dans ces dimensions différentes, trouvent leur juste unité dans l'unique réalité de l'amour, plus se réalise la véritable nature de l'amour en général. Même si initialement l'Eros est surtout sensuel, ascendant, fascination pour la grande promesse du bonheur, lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se posera toujours moins de questions sur lui-même. Il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre. Il se préoccupera toujours plus de l'autre. Il se donnera et il désirera être pour l'autre. C'est ainsi que le moment de l'agapé s'insère en lui, sinon l'éros des choix et perd aussi sa nature même. Autrement dit, les puissances d'aimer qui sont plutôt tournées vers soi, si vous voulez, qui sont de tendance un peu égocentrique, ne sont pas à bannir. Au contraire, elles sont à être prises en charge quelque part par l'agapé pour être orientées vers l'amour de l'autre, parce que le plus grand bonheur, c'est le bonheur de ce que vous aimez. C'est le bonheur des êtres que vous aimez. Qui ici pourrait vraiment être heureux si les êtres qui l'aiment ne connaissent pas le bonheur? On pourrait y revenir. Alors je vous signale que dans le banquet de Platon, Eros est fils de pénurie et d'abondance. Ça ne pouvait pas faire un petit bien équilibré. Il est instable, il ne se contrôle pas toujours. Pénurie et abondance, c'est une force dynamique qui va du vide au plein, du manque au rassasiement, de l'incomplétude au comblement. Ce n'est pas facile à vivre et nous en sommes tous un peu plus ou moins là. On est l'éros, le fils de pénurie et d'abondance qu'il y a en nous, nous fait vivre cela de manière plus ou moins réussie. Il ne faut pas s'affoler si c'est pas très réussi, c'est jamais d'ailleurs réussi, mais c'est à l'amour de charité de baptiser, si je puis dire, de sanctifier l'éros qui n'est surtout pas à rejeter. Et d'ailleurs, ce que nous a dit cet après-midi l'intervenante, si le manque ne nous manquait pas, nous serions bien malheureux, puisqu'au paradis, elle disait que la joie était parfaite parce que Parce que c'était profondément ennuyeux, c'est une façon de voir les choses, j'y reviendrai à la fin sur la vision de Dieu. S'il n'y a plus de manque, y a-t-il encore un désir et y a-t-il encore du bonheur? Vaste question. J'ai passé mes 10 premières minutes sur le premier point. Je passe au deuxième point, le Dieu qui intervient. Alors, bien sûr, ce sont des grandes idées, mais que je voudrais ramasser en fonction de notre sujet. Le Dieu qui intervient, c'est le Dieu auquel nous croyons. Il faut savoir que dans la Bible, on ne décrit pas Dieu, ou plutôt, on n'est pas dans une tradition philosophique où on essaie de qualifier les attributs de Dieu, etc. La Bible parle, elle ne décrit pas Dieu, elle préfère insister sur son dynamisme, sur son agir. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui donne la vie. C'est le Dieu qui est la source de la vie. Ce qui l'oppose aux idoles qui sont des dieux morts. La Bible, c'est le livre de la vie. On aime passionnément la vie. D'ailleurs, en hébreu, c'est au pluriel, d'intensité. C'est le bien le plus cher. Un chien vivant vaut mieux qu'un... un cochon mort. Oui, on peut dire ça. C'est qu'un lion mort. C'est Coëlette, hein, qui le dit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, il donne la vie, la garantit, la préserve. Il fait marcher dans la lumière de la vie, comme dit l'Écriture, en particulier les psaumes. Et la longueur de vie est une bénédiction. Il est le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Le Dieu de la Bible est celui qui intervient. Ce qu'il est consiste à intervenir, à sortir de lui, si je puis dire, pour venir nous rejoindre. Alors ça, vous savez que c'est tout à fait stupéfiant quand on fait un peu de religion comparée, quand on lit les récits bibliques, par exemple avec les récits babyloniens, vous pouvez le trouver dans les suppléments au cahier évangile. Donc, pour vous donner une source, même dans la tradition égyptienne, les deux grands mondes qui sont autour de la Bible, hein, le monde babylonien, le monde égyptien, les dieux vivent entre eux. Ils ne s'intéressent pas trop à l'homme. Hein. Même d'ailleurs, la création est souvent le fruit d'une dispute entre les dieux, et puis boum, on est arrivé. C'est un accident de parcours. Et puis, s'ils sont là, les hommes, il faudra bien qu'ils servent les dieux. Il faut bien faire quelque chose. Ils se moquent pas mal de la vie des hommes, les dieux babyloniens et égyptiens. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible s'intéresse beaucoup à l'homme, jusqu'à se compromettre lui-même, jusqu'à s'engager dans des alliances. C'est absolument fondamental pour comprendre le Dieu de la Bible. D'ailleurs, les deux événements que la Bible rapporte le plus souvent sont l'Exode et la création. D'abord l'Exode, un Dieu qui nous sort du bourbier. Il faut quand même le faire pour fonder une religion sur quelque chose d'aussi humiliant que l'esclavage d'Égypte. C'est quand même extraordinaire pour partir de là. On ne part pas d'une vision irénique ou d'une vision d'apothéose de la création. On part d'une vision dramatique, d'anéantissement. Le Dieu auquel on croit, c'est le Dieu qui va nous sortir du bourbier de l'anéantissement, qui va nous faire sortir d'Égypte et qui va nous libérer. Expérience d'une libération et la joie biblique est toujours la joie qui provient de cette libération, de quelque manière qu'on la situe. Et la création n'est finalement qu'un exode universel, une extension aux dimensions du cosmos, aux dimensions de tout ce qui existe, de ce Dieu qui a jeté quelque part hors de lui ce qui vient de lui et qui s'en est un petit peu repenti parce que ça vient de lui, il ne peut pas y renoncer. Et en même temps, il va falloir qu'il mette le prix, si je puis dire, pour que ce qui vient de lui puisse retourner à lui. Quand je dis que Dieu intervient, ce n'est pas un moment, c'est événementiel, mais c'est continu. L'hébreu emploie le participe présent, qui est un acte qu'on ne peut pas traduire en français, puis ça serait trop lourd. Dans les récits de création en particulier, c'est passé. Le présent, c'est un acte qui s'est fait, qui se fait, qui se fera. C'est une intervention permanente. Si Dieu n'intervient pas, plus rien n'existe. Plus rien n'est sauvé, plus rien ne vit. Il intervient en ce moment dans ce que nous sommes en train de vivre. Voilà ce qu'Israël affirme. Il a fait l'expérience de Dieu dans son histoire. Un Dieu qui intervient, donc un Dieu qui parle, qui se révèle, je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire qui dit quelque chose de lui-même à sa création. Un Dieu qui a choisi son peuple. Ce n'est pas les hommes qui ont choisi leur Dieu, c'est Dieu qui s'est choisi son peuple. Israël interpelle un Dieu qui l'a interpellé, qui a pris l'initiative, au sens étymologique, qui a commencé. Et il faut qu'il assume, si je puis dire, ses responsabilités. Mais on peut lui faire confiance. Tout est là, d'ailleurs. Un Dieu qui a commencé une histoire avec son peuple. Ça, c'est fondamental parce que dans la vision cosmique et dans les visions théogoniques, si vous voulez, des mondes environnants d'Israël, on est dans un temps primordial, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu ça, intemporel, un cycle qui se répète à l'infini. Non, Dieu se révèle non seulement dans l'histoire, mais comme histoire. L'histoire, ce n'est pas simplement le cadre dans lequel Dieu va intervenir. Elle est cette intervention même, l'histoire de Dieu, dans laquelle l'homme va être partie prenante. Pour le chrétien, ça change, la donnée ne change pas. Dieu intervient par son incarnation, sa mort et sa résurrection, qui est le Christ et notre exode. Les disciples à la transfiguration dans le récit de Luc s'entretiennent de son exode qui va le conduire à Jérusalem. Nous sommes bien dans un récit de l'histoire qui est habité de part en part par la présence de Dieu. Est-ce que je suis dans les temps? Je vais même trop vite. C'est pas grave, ça me donne du rab pour la fin. Surtout que la partie qui vient sera peut-être un petit peu plus longue. Louange et supplication. En hébreu, le livre s'appelle Louange, le livre des psaumes. Je me concentrerai un petit peu plus sur les psaumes parce que c'est la moelle un petit peu de l'écriture et il y a la résonance de toute l'écriture sous forme de prière. Alors là, je me suis un peu à l'école des maîtres que j'ai eue. Qui nous redisait en particulier, il ne faut pas confondre louange et remerciement. Il y a une différence fondamentale entre louange et remerciement. Le merci, ce n'est pas spontané. Quand vous avez des petits, vous lui donnez un bonbon, et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Sinon, il ne le dira pas. La louange, c'est ce qui jaillit spontanément du cœur quand vous partagez quelque chose de vivant, de beau, de bon. Un enfant qui a, je sais pas, un beau cadeau, une belle voiture, il va vite le montrer. On n'a pas besoin de lui dire, va vite le montrer à tes copains. Voilà, vous voyez, enfin, c'est une façon de parler un peu prosaïque, si vous voulez, qui essaie de vous dire que la louange, c'est pas le remerciement. La louange, c'est la reconnaissance d'une intervention de Dieu dans notre histoire. Dans le remerciement, vous avez le bienfaiteur et le bénéficiaire, tandis que dans la louange, vous avez un tiers. Dans la louange, il y a un auditoire. Alors, il n'y a pas de mots en hébreu ancien pour dire merci. Quand même, il faut le faire, ça. Des mots, alors, il y a une ribambelle de mots pour dire la louange. Et souvent, la louange commence par un invitatoire. Louez le Seigneur. On s'adresse à un auditoire. On s'adresse à Dieu, mais on s'adresse à un auditoire qu'on invite à louer le Seigneur. La forme la plus brève des invitatoires de louange, c'est Alléluia, louez le Seigneur. Ya étant la forme, ce qu'on appelle apocopée, c'est-à-dire une forme réduite, on a fait tomber les dernières syllabes, vous savez, comme quand vous dites auto au lieu d'automobile, pour dire le Seigneur, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. On est dans la louange dès lors que on la partage. La louange est native. Et ça, c'est de manière impérative. Ça jaillit des sources même de la vie. Et c'est communautaire. La louange est communautaire. On a besoin d'extérioriser l'admiration. Elle est communicative. Dans la supplication, on parle de soi à Dieu. Dans la louange, je viendrai un peu plus loin de la supplication, on parle de Dieu aux autres. On parle de Dieu aux autres. Peut-être un des chemins du bonheur, ça. Parler de Dieu aux autres. Et la louange unit le lien à Dieu et le lien aux autres. C'est notre besoin le plus profond que nous avons, c'est celui de louer. Ce qui nous manque peut-être le plus aujourd'hui, c'est peut-être c'est pour ça qu'on est manque vraiment au bonheur, c'est de louer le Seigneur. À cet instant même, chers amis, vous avez mille raisons de louer le Seigneur. Je suis bien, je loue le Seigneur. J'ai ceci, je loue le Seigneur. Je suis malade. Le Seigneur est présent, il m'assiste. Alors on loue de manière différente, on ne loue pas de la même manière, bien sûr. Mais il n'y a pas de lieu où vous ne pouvez pas louer le Seigneur. C'est le besoin le plus profond et le plus noble de l'homme. C'est considérer toute notre vie sous le dynamisme du don de Dieu. Alors vous savez, là aussi, si on compare les hymnes qui sont autour d'Israël avec ceux de la Bible, on voit bien la différence, parce qu'on loue le Seigneur on loue pas vraiment le Seigneur dans les hymnes. J'ai relu les hymnes dans les suppléments, le cahier évangile, le babylonien. En fait, on le flatte. Mais ce qui compte, c'est pas la louange, c'est la demande qu'on va faire derrière. C'est-à-dire, bon, tu es bien. Il y a un peu ça dans la Bible, mais c'est pas du tout dans le même ordonnancement. En Israël, on loue le Seigneur parce que la louange est bonne, elle est belle. Elle permet d'exprimer les splendeurs de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il nous comble de gratitude. Il nous comble de ses bienfaits. Encore une fois, pas à la manière dont nous les percevons. Peut-être faut-il louer le Seigneur pour se rendre compte des bienfaits qu'il nous donne. Je veux dire qu'elle est tellement originaire, la louange, voyez-vous, qu'elle commence, elle doit commencer par s'exercer avant d'en décliner le contenu. Donc la louange dans la Bible, c'est l'activité la plus normale de l'être humain. L'être vivant est celui qui loue, et celui qui loue le Seigneur. Si l'homme ne loue pas le Seigneur, il est comme mort. Vivre, c'est louer, disent les Allemands, Leben ist loben. Alors rassurez-vous, je ne connais pas l'allemand, enfin je connais des blagues en allemand parce que j'avais appris dans la 6000. Mais c'est tout ce que je connais, mais Leben ist loben, vivre c'est louer. Parce que les morts ne louent pas le Seigneur, comme dit la parole de Dieu, mais nous les vivants bénissons le Seigneur. Et c'est, d'ailleurs, il y a un petit peu de chantage dans les écrivains. Si tu me gardes pas en vie, je ne pourrai pas te louer, dit Laurent au Seigneur. La louange et la vie sont indissociables. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Alors là, je cite un saint du IVe siècle, saint Éphrem le Syrien. « Je louerai tant que je vivrai, je ne serai pas comme si je n'étais pas. Je louerai tant que je vivrai, je ne serai pas comme si je n'étais pas. Je le louerai toute ma vie, je ne serai pas comme un mort chez les vivants. » Si on ne loue pas le Seigneur, nous sommes comme un mort chez les vivants. Et la meilleure louange dans vos vies, c'est de faire l'inventaire des interventions divines, des interventions de Dieu. Souviens-toi de ton Dieu, de ce qu'il a fait pour toi. Il ne t'oubliera pas, il ne t'oublie pas. Il t'a pas oublié. La louange se traduit en bénédiction. Le cœur de la prière juive par excellence, c'est la bénédiction, c'est l'essentiel. C'est-à-dire bénir, c'est communiquer la vie qui vient de Dieu, dans des conditions particulières chaque fois. Hein? Qu'est-ce que la supplication? C'est tout simplement l'interruption de la louange. La louange est l'état normal. Or, un drame survient, interruption de la louange. Et la louange va être le but ultime de la supplication. Car la louange, c'est l'activité normale du vivant. Elle est interrompue par une épreuve, par une incompréhension. Et la supplication veut être un chemin de restitution de la louange pour en arriver à un chant nouveau. Je chanterai au Seigneur un chant nouveau. Une alliance nouvelle. Tous les nouveaux que vous trouvez dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, sont les nouveaux qui sont ceux qui ont surgi du creuset de quelque chose qui a disparu et qui est passé par le creuset d'une épreuve que l'on croyait insurmontable. Un chant nouveau, c'est le chant qui redevient louange après la supplication. Quelque chose de tout neuf en vérité, parce qu'on n'est plus du tout pareil après qu'avant. Alors là aussi, comme il ne fallait pas confondre louange et remerciement, il ne faut pas confondre louange et prière de demande. Vous savez, souvent, nous, on fait des prières de demande. Alors, dans la supplication, vous avez de la demande, mais ce n'est pas l'essentiel. La supplication, c'est l'exposé de sa misère, l'exposé de sa, de son drame. Voilà ce qui est le plus important. Je suis au fond du trou, je suis dans la misère, je suis dans le néant, il n'y a pas d'autre issue, etc., etc., etc. On demande très rarement à Dieu de résoudre le problème. On ne lui demande pas tellement ça. On peut faire aveu de culpabilité ou protestation d'innocence, mais c'est pas encore le plus important, c'est l'expression de sa détresse. L'expression de ta détresse. Il n'y a pas d'autre issue, mais qu'est-ce qu'il faut faire, ou plutôt qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi de te débrouiller, mon Dieu. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il a à faire. À cause de ton nom, ne perds pas crédit. Tu vois ma situation. Si tu me laisses dans cette mouise, si tu me laisses dans cette horreur, si tu me laisses dans cette détresse, c'est toi qui te contredis. Là, je disais, prends tes responsabilités, mon Dieu. Si je vais au Sheol, je ne pourrai pas te louer. Pourquoi tu m'as créé? Je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je crois que la demande, si vous voulez, au sens où on demande, c'est bien si vous voulez, mais il faut d'abord laisser à Dieu le soin de lui dire l'ampleur de notre détresse et surtout lui laisser le soin de l'habiter comme il l'entend. Et pas comme nous aimerions souvent que ça se passe. Ça peut être très libérateur, je vous signale, parce que répondre de cette manière, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, peut être beaucoup plus libérateur que de s'imaginer ce que doit être notre bien dans des situations de détresse. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les imprécations, vous savez, quand on souhaite du malheur à l'ennemi. La Bible n'a pas peur de charrier tous les sentiments les plus terribles qui peuvent traverser le cœur de l'homme. Les sentiments les plus violents, les plus vengeurs. Mais attention, ça, c'est reçu dans la dignité d'une prière à Dieu. Quatrième point, la voix. La voix. Si ce qui précède a quelque sens, ça veut dire que notre vie est un cheminement et que ce cheminement, comme tel, a du sens avant même qu'il atteigne son but. La voix. Le cheminement, c'est ce que Dieu trace pour l'homme. C'est pas l'homme qui le trace. Hein? C'est la voie que Dieu trace pour l'homme. C'est ce qui part d'Abraham, va. Et Abraham partit sans savoir où il allait. Je te conduirai. C'est Dieu qui ouvre la route. Dans l'Exode, le Seigneur, je cite ici l'Exode, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Dieu rythme la marche et le repos. Présence de Dieu dans un cheminement. L'essentiel, c'est de marcher. Cet épisode, d'ailleurs, de l'Exode avec les colonnes a été employé typologiquement dans le Nouveau Testament avec cette idée de Dieu ce Dieu qui se met à la tête de son peuple, qui cherche un lieu de campement, qui prépare une place. Vous savez, il va préparer une place, une maison d'habitation. Vous le trouvez avec Jésus qui prend la tête du nouvel Exode, qui va préparer une place. Vous savez, il dit, je vais vous préparer une place et quand je vous l'aurai préparée, je reviendrai dans la maison du Père où il y a de nombreuses demeures. Je vous rappelle qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Chacun peut avoir son chemin. Personne n'a à suivre le chemin de personne, même si on peut y trouver des exemples et des modèles. Chaque chemin est unique. Donc le plus important, c'est que chacun trouve son chemin de vie, son chemin de sainteté. Quelle joie quand on m'a dit « nous irons à la maison du Seigneur ». Toute l'Écriture est fondée sur ce pèlerinage à Jérusalem. Notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, qui est la capitale nationale d'Israël, le lieu d'unité, de convergence des tribus, des peuples, lieu que Dieu s'est choisi pour demeure, qui est le lieu symbolique de la joie et de la paix, où se rassemble celui qui nous a appelés. Dans l'évangile de Jean, Jésus est la voie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Le mystère de Jésus, c'est le mystère de sa filiation. Il vient du Père et il va vers le Père. Nous sommes des nomades, des pèlerins. Nous sommes sur un chemin. Souvenez-vous que vous êtes des étrangers et des voyageurs de passage, dit l'Épître aux Hébreux. Alors, ça, c'est capital dans la perception biblique et chrétienne, a fortiori chrétienne, où on est toujours en mouvement, en déplacement. Jésus est en mouvement, toujours en déplacement. Vous ne le voyez pas, il est toujours en route vers, pas directement vers Jérusalem, mais c'est le sens, si vous voulez. Le Christ à Emmaüs faisait route avec ses disciples. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait en chemin ? Il nous parlait en chemin. Je crois que le Seigneur Jésus inaugure une nouvelle manière de marcher, selon Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on n'insiste pas trop là-dessus, mais quand même que les premiers chrétiens se sont appelés la voie. Pas simplement ceux de la voie, mais la voie. La voie, le chemin, vous avez ça dans les Actes des Apôtres, rien que dans les Actes des Apôtres, à 8 ou une dizaine de reprises. Priscille et Aquila avaient entendu parler de la voie. Certains incrédules décriaient la voie devant l'assistance. Vers ce temps-là, un tumulte assez grave se produisit à propos de la voie. C'est le chemin. Félix, qui était fort informé de ce qui concerne la voie. Chemin, dynamique, lève-toi, va, ne t'arrête pas. On connaît Dieu par la marche, par le cheminement. Mais attention, c'est bien le Seigneur qui nous ouvre la voie et qui nous conduit. C'est être ouvert à son agir et à sa volonté. D'où l'importance de la prière. Qu'est-ce que c'est que prier, de ce point de vue ? C'est se mettre en chemin. Prier, c'est marcher. C'est engager sa route, parce qu'il y a un appel, et d'autant plus si l'épreuve est là. La prière doit être plus insistante et faire avancer. Tant qu'on prie, on ne désespère pas. La prière est toujours un refus de l'échec. Alors, je n'oppose pas du tout ce qu'on appelle la prière, la contemplation et l'action, qui nous vient de la tradition philosophique. Je crois que dans la Bible, la question ne se pose même pas. Prier, c'est marcher au-delà de l'utile, du logique, de l'activisme, du compréhensible. J'ai remarqué que lorsque Jésus marche sur les eaux, c'est dans Matthieu et dans Marc, c'est tout juste chaque fois après avoir passé la nuit en prière. Il marche sur les eaux, sur un chemin qui peut nous ou sur un chemin de vie où on pourrait être englouti par les monstres marins, puisque là c'est l'idée, si vous voulez, de marcher sur les eaux. Donc la prière, c'est ce qui vous empêche de faire du surplace ou de vous appesantir sur ce qui vous plombe. J'en arrive au cinquième point, c'est ça ? Le désir. Je cite saint Augustin. Celui qui ne gémit pas comme pèlerin ne se réjouit pas comme citoyen parce que le désir n'est pas en lui. Beaucoup cette phrase. Je répète. Je vais compléter avec les mots de l'époque, si je puis dire. Celui qui ne gémit pas comme pèlerin de la terre ne se réjouira pas comme citoyen du ciel parce que le désir de la patrie n'est pas en lui. La définition du bonheur dépend de celle que nous avons de l'homme et de sa fin. Vous n'avez pas du tout les mêmes conceptions du bonheur suivant la conception que vous avez de l'homme et de sa finalité. La question du bonheur, c'est la question du pourquoi nous sommes faits. Quelle est notre finalité? Quelle est la fin de notre désir? Alors le désir, dans l'Écriture, si je ne prends que de psaumes, quelques psaumes, c'est le désir d'être avec Dieu, de voir Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Au sanctuaire, je t'ai contemplé, voir ta puissance et ta gloire. Que tes demeures sont désirables, Seigneur. Mon âme soupire et languit après tes parvis. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Donc, la soif de l'homme, c'est être avec Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire de vivre de lui. C'est quelque chose de déraisonnable, qui n'est pas à mesure humaine. C'est, dans l'expérience spirituelle, une ivresse et une blessure, puisque ça nous renvoie à notre incapacité radicale. Et il faut que ça nous renvoie à notre incapacité radicale pour qu'il y ait un cheminement de grâce qui soit entrepris. Parce que le propre du désir, c'est d'être infini. Le désir n'a pas de limite. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Et l'épreuve épure le désir. Le psalmiste, en particulier, se présente souvent, comme je l'ai dit, comme un pauvre, celui qui a traversé l'épreuve et qui a compris que le cœur du désir, c'était d'être avec Dieu, qui compte sur Dieu, qui est le vrai bien qui seul peut combler. C'est la richesse du pauvre. Alors, je vais élargir à partir d'ici la perspective vers un peu dans la tradition de l'Église. Le désir, un petit mot sur le désir. Bon, le désir, c'est pas une pulsion aveugle, comme contrairement à ce qu'ont pu penser certains. Le désir est bon en lui-même. Il est par lui-même désir du bien, désir d'aimer, désir d'être aimé. Le désir n'est pas neutre. Quand il se génère en violence ou en désir du mal, c'est déjà une perversion. Le désir devient par frustration, désir de possession, de domination, de destruction. Je dis ça parce que contre les idéologies modernes, la religion n'est pas une aliénation du désir. Elle maintient au contraire le désir de l'homme, toujours ouvert au-delà de son objet saisissable, en quelque manière que ce soit. Mais précisément, c'est toute la question, parce que le désir, on l'a vu avec les addictions tout à l'heure, se porte vers tout ce qu'il peut le combler. L'homme est capax dei, comme dit la tradition, mais il a fixé son désir sur ce qui n'est pas Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Il perd le goût des réalités d'en haut, et plus il est dans ce désir des biens sensibles, ou des biens purement terrestres, il s'y enferme. Et il n'échappe pas au vide intérieur, au contraire, il le creuse. Rien ne peut le contenter. Finalement, au final, c'est une profonde tristesse qui se manifeste. C'est pourquoi le désir doit subir une profonde transformation, qu'on appelle de la vie théologale, de la foi, de l'espérance, de la charité. Il doit être habité par la charité, en particulier par l'espérance. Vous connaissez ce passage de Peggy, sur le, bien connu, sur le, la petite fille espérance, porche du mystère de la deuxième vertu. La foi ne voit que ce qui est, l'espérance voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, l'espérance aime ce qui sera. L'espérance, c'est ce qui, dans la foi et la charité, vous fait habiter déjà ce qui vous est promis. Vous est déjà donné ce qui vous est promis. Nous avons besoin, alors, nous avons besoin de passer par là pour être capax dei, si je puis dire. Je cite ici saint Augustin, je trouve cette phrase admirable. Dieu, en faisant attendre, étend le désir. En faisant désirer, il dilate l'âme. En dilatant l'âme, il la rend capable de recevoir. Il prend l'image d'une poche qui doit ne cesser de s'élargir. Je répète cette phrase. Dieu, en faisant attendre, étend le désir. En faisant désirer, il dilate l'âme. En dilatant l'âme, il la rend capable de recevoir. Dieu n'est jamais aussi Dieu dans notre vie que quand il nous manque, quand il nous fait signe par son absence quelque part. Ce n'est pas une explication au cheminement houleux, périlleux, douloureux que nous pouvons traverser, mais ça lui donne quand même un peu de sens. Le sens du pourquoi faut-il tant attendre ? Parce que c'est la question de la souffrance, hein, qui n'a pas qui n'a pas d'explication, parce qu'il n'y a pas de Dieu des morts dans la Bible. Hein. Vous avez l'explication de la souffrance quand vous avez un Dieu des vivants et un Dieu des morts. Quand vous avez un Dieu du bien et un Dieu du mal. Horreur, la Bible, la horreur de la mort et de la souffrance. Question. Alors justement, nous allons arriver au terme du voyage. La vision de Dieu, c'est mon sixième point. Car c'est la fin de l'homme, pas que dans la perspective de la tradition chrétienne, mais dans la perspective déjà néo-testamentaire et biblique. Je veux voir ta face. La première épître de Jean dit « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors attention, c'est un langage qui reste métaphorique, qui reste imagé, parce que il y a une telle disproportion entre les mots que nous employons et la réalité que nous visons, quand nous parlons de Dieu, que tout langage est nécessairement métaphorique, nécessairement imagé. Nous le verrons tel qu'il est. Alors, je vous fais remarquer que moi, j'ai pensé à cette phrase, je me dis, si je voyais Dieu tel qu'il est en ce moment, je me demande si je n'aurais pas atomisé, anéanti, je ne tiendrais pas, hein, nul ne peut voir Dieu sans mourir, mais... Être devant Dieu, le voir tel qu'il est, c'est précisément pas ce que nous dit cette phrase. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle espérance ! Quand nous le verrons tel qu'il est, il nous transformera en lui. Ça s'appelle la vie théologale. Je vous signale que c'est la grande différence entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Dans la religion musulmane, vous n'avez pas de communication de Dieu lui-même, d'auto-communication de Dieu. Ce qu'on appelle la vie de foi, d'espérance et de charité. La vie de foi, d'espérance et de charité, c'est la vie même de Dieu communiquée à la nôtre. Dans la tradition musulmane, vous avez bien une communication de Dieu, puisqu'il fait connaître ses décrets, etc. Mais jamais, au jamais, Dieu ne se communiquera lui-même, c'est même blasphématoire. Si bien d'ailleurs que le paradis, c'est une projection des plaisirs de ce monde. Hein. Il y en a plus pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs. Même si je veux bien que dans la tradition chrétienne, vous avez le banquet, mais c'est le lieu de la nuptialité, de l'amitié, de la convivialité, toute chose qui... c'est pas d'abord la ripaille qu'on va y faire. Hein. Enfin, c'est quand même important de dire que La vision de Dieu, c'est ça, c'est recevoir la vie même de Dieu en héritage, participer à son acte d'aimer. Le désir sera comblé. Mais pourtant, le désir, comme j'ai dit, est infini, il ne cessera de croître. Alors ça, il ne sera plus l'expression d'une souffrance, sinon d'un manque, mais d'une surabondance de l'amour, car il n'y a pas d'opposition entre la plénitude de la joie et l'infinité du désir. Je vous cite ici, je m'écarte de la Bible, mais je vais terminer par là, finalement, ça aurait été moins long que prévu. Saint Bernard. L'heureuse découverte de celui qui cherche Dieu, loin d'éteindre le désir, l'attise encore. La plénitude de la joie ne consume pas le désir, elle est plutôt l'huile qui vient en alimenter la flamme. En perspective chrétienne, il n'y a pas d'extinction du désir, on n'est pas dans le bouddhisme, hein, il n'y a pas de disparition du désir. Le désir, c'est la vie même de Dieu en nous, dans son accomplissement saint, puisque précisément le péché est une perversion du désir. Je dis bien d'une perversion du désir en tant que tel. Saint Grégoire de Nice. Ce qui est obtenu n'est jamais une limite au désir. Il parle de la vie en Dieu. Car si ce que l'on découvre est abondant, infini est ce qui est au-dessus de tout ce que l'on découvre à chaque instant. Et cela se produit à jamais, l'accroissement se réalisant pour les participants par des biens toujours plus grands à travers l'éternité des siècles. Une dynamique interne, éternelle, qui nous fera toujours plus désirer l'amour de Dieu, qui au même moment nous en comblera infiniment. Allez savoir comment ça sera, qui vivra, verra. Thomas d'Aquin, il fallait bien quand même que je termine par Thomas d'Aquin, qui reprend saint Augustin, de la cité de Dieu. Nous appelons fin de l'homme non ce qui se détruit de manière à ne plus être, mais ce qui s'achève jusqu'à pleinement être. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en devenir de notre être. Et peut-être que c'est ça Adam et Ève, ce dont elle parlait, vous savez, ils s'ennuyaient au paradis. C'est parce que ils n'étaient pas encore pleinement ce qu'ils étaient appelés à être, et ils pensaient que c'était déjà le cas. Ils se sont sacrément ennuyés. C'est une lecture, pourquoi pas. Et je continue avec Thomas d'Aquin. Celui qui participera le plus à la lumière de gloire, donc la gloire, c'est ce qui succède à la grâce en quelque sorte, c'est la vision même que Dieu nous donne, enfin, si je puis dire, cela même qui est Dieu, qui nous est donné à notre capacité de réception pour pouvoir être en lui. Celui qui participera le plus à la lumière de gloire est celui qui a le plus de charité. Car plus grande est la charité, plus grand est le désir, et le désir rend d'une certaine manière l'être qui désire apte et tout prêt à recevoir l'objet désiré. Ainsi, celui qui aura le plus de charité verra Dieu plus parfaitement et il sera plus heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous aimerez ici-bas, plus vous serez heureux d'être comblé là-bas. Aimer chaque jour un peu plus. Vous savez, le problème, c'est pas aimer, d'accord, mais aimer chaque jour un peu plus, un petit peu plus. Si vous pouvez retenir une chose ici, c'est pour insister sur cette notion dynamique du cheminement, là, le un petit peu plus chaque jour. Aimez votre frère, votre prochain, un petit peu plus chaque jour. Et puis si vous avez fait 3 pas en arrière, vous donnez-vous 4 jours. D'accord? Mais aimez chaque jour un petit peu plus. Un petit peu plus chaque jour. Et je termine par ce que je trouve admirable, parce que finalement tout ça pourrait être bien égoïste, hein, mon petit bonheur en Dieu. C'est le contraire, la vie en Dieu. Chacun aimera l'autre comme soi-même et par suite se réjouira du bien de l'autre comme de son bien propre. De ce fait, l'allégresse et la joie d'un seul s'accroît dans la mesure où elle est aussi la joie de tous. Je répète, chacun aimera l'autre comme soi-même et par suite se réjouira du bien de l'autre comme de son bien propre. De ce fait, l'allégresse et la joie d'un seul s'accroît dans la mesure où elle est aussi la joie de tous. C'est-à-dire, vous vous rendez compte comme on va s'éclater, parce que la joie de chacun sera multipliée, démultipliée par la joie des autres. On n'est plus dans la jalousie, c'est fini. Là, notre joie sera d'autant plus grande que ce sera la joie des autres. Vous voyez ? Mais ça, tous les gens qui s'aiment peuvent comprendre ça. Tous les gens qui aiment peuvent comprendre ça. Hein ? Donc, tout le mystère de la communion des saints. Écoutez, je vais en rester là, parce que finalement, saint Thomas a bien raison. Amen.